Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués. Je crois que j'ai fait le tour. Bonsoir. Donc, effectivement, on est dans une communauté de 5 ou 6 nationalités au moins.
J'ai compté, on était
9. 9, ouais. D'accord.
Déjà compté.
9 nationalités. Ça, c'est un avant-goût du ciel, je crois. Je pense qu'on avait parlé du portugais tout à l'heure. On avait parlé de... Quelle langue déjà? De Ghana? Akang, Manipuri, Tamoul. C'est super, oui. Alors je vais vous distribuer ça, peut-être si il y en a assez. Donc effectivement, pour les couples, vous pouvez prendre deux.
Un pour
deux.
Avec la
sœur. Ah, il était.
Thank you.
Elle a déjà. Bien. Alors j'avais cru comprendre que vous faites des lectures sur le livre de roi habituellement. Là on change un peu le format parce que comme j'étais parti sur 2 Timothée, donc j'ai demandé à Greg et puis ils ont dit bon, tu peux continuer la série. Mais on va bien sûr faire en interactif. Et puis selon vos questions, vos interventions, commentaires, on peut rester 2 heures. si vous en avez. Non, on va essayer de terminer à 16 heures, avant 16 heures même, si possible. Donc on va poursuivre cette deuxième lettre de Paul à qui ?
À Timothée.
Très bien. Donc on a étudié la deuxième lettre de Paul à Timothée ces dimanches-là. Et en semaine, pour ceux qui peuvent nous rejoindre, on fait la lettre aux Hébreux. Donc c'était très utile parce que même hier, pour la discussion avec Evelyne qui passait et puis qui est de confession catholique, c'est servi des études que nous avions fait même mercredi avec Madeleine et les autres par Skype. Donc, surtout, si vous prenez le temps d'étudier ces lettres, donc je parle d'hébreu parce que là, c'est pour une bonne connaissance par rapport à l'évangélisation parmi les catholiques, surtout. C'est je pense, les bonnes réponses, les meilleures réponses restent là. Alors, donc, on revient donc dans 2 Timothée. Je vous propose qu'on puisse lire chacun son tour. Peut-être, c'est ce que vous faites habituellement, hein. Une lecture. Il y aura pas mal de lectures pour cette étude. Alors que j'intitule l'apostolat de Paul pour l'évangile du Christ et sa compréhension de la grâce. Je voulais un peu m'arrêter, comme j'avais dit la semaine dernière, au culte, que Paul parle beaucoup de la grâce de Dieu. Souvent, on s'arrête dans ces premiers versets, mais aussi de la grâce de Dieu. Par rapport à son ministère, la grâce de Dieu par rapport à tous ces chrétiens qui sont sauvés. C'est une doctrine importante, je trouve, parce que ça peut faire débat dans certains milieux, cette doctrine. Mais si on prend la Bible et on passe le temps de lire la parole par rapport à ce thème, je crois que on peut un peu ajuster nos conceptions parfois sur cette compréhension et sur la bonne compréhension de la grâce de Dieu selon Paul. Donc bien sûr, comme on est sur la lettre de Paul à Timothée, on sera beaucoup plus attaché aux écrits de Paul, mais d'autres apôtres en parlaient aussi. Alors je vais commencer avec 2 Timothée 1, 8 à 13, et puis après chacun, à partir de Nielsen, on peut continuer à lire... les passages, si possible, prenez un peu cet enregistrement peut-être à côté de vous, quand vous lisez, si vous y pensez. 2 Timothée, chapitre 1, versets 8 à 13. Un petit quiz avant, Timothée, il est de quelle ville? On parle de ville notamment d'où il vient, vous vous rappelez?
Lystre.
Exactement, de Lystre, exactement. Il est de Lystre dans son deuxième voyage avec Silas, Paul le rencontre, Timothée. Donc ça c'est un peu l'arrière-plan de ce jeune homme. Donc 2 Timothée 1, 8 à 13, je vais lire. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Donc dans la première partie, je vous propose qu'on puisse un peu s'arrêter sur Paul, sa prédication en tant que prédicateur et en tant qu'apôtre de l'Évangile, et pourquoi on se concentre dans cette personne. C'est ça qu'on va étudier pour cette première partie. Et puis en deuxième partie, on réfléchira ensemble avec quelques questions. Paul, en tant que communicateur de la grâce de Dieu et la juste compréhension de la grâce de Dieu dans la Bible. Pourquoi ? Parce que si nous sommes consolidés, ce que j'écris ici, c'est dans la considération de Paul comme homme choisi pour être le gardien de la vérité de Dieu. Paul en tant que prédicateur de l'Évangile, Paul en tant que pasteur, enseignant, apôtre, évangéliste aussi. Donc il a tout ce travail, cette fonction qu'il avait envoyé par Dieu. C'est qu'il dispense quand même une grande partie de la foi chrétienne. La majeure partie des instructions de la confession chrétienne, des juifs et des païens, vient de Paul, notamment. Une des raisons pourquoi on se concentre sur son apport et tout ce qu'il écrit pour l'Église. Et si on saisit bien l'apôtre Paul, je crois qu'on peut éviter beaucoup, beaucoup de déviances qui existent. On peut répondre à toutes sortes d'erreurs contre la Bible, ou à côté, ou à périphérique de la Bible, ou même des déviances extra-bibliques. Ça peut arriver subtilement. Donc, raison pourquoi je pense qu'on insiste pour qu'on étudie cet homme, l'apôtre choisi par Dieu. 2 Timothée 1, 11. Tu veux lire, peut-être. Wilson.
2 Timothée 1, 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens.
Très bien. Verset 11. Donc la première question, donc je vous laisse vous exprimer surtout parce que après un si bon repas gastronomique, je pense que j'aurai besoin de vous. Voilà. Alors, à votre avis, quel est le rapport majeur des chrétiens des différentes nations avec la Bible ? Ou bien qui a présenté la Bible aux chrétiens ?
C'est Paul.
C'est Paul, bien sûr. Qui a présenté la Bible aux chrétiens ? C'est Paul. Est-ce que vous avez des passages qui vous viennent à l'esprit comme ça, sans lire les notes ? Pourquoi Paul est celui qui présente l'Évangile aux chrétiens ?
Parce qu'il a été choisi.
C'est ça. Il a été tout à fait choisi par Dieu. Et c'est un homme qui a été pris à part. Et il dira même dès le sein maternel, je suis pris à part. Et Madeleine, tu peux lire Galates 2,9 qui est dans les notes ? S'il te plaît.
C'est où ça ?
Là.
Ici. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre de circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens.
Voilà. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des juifs,
oui,
a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et 9 nationalités, c'est ça que, hein, Rav, tu as noté. 9 nationalités. Rien que ici dans notre réunion, dans cette petite partie de Hauts-de-France. Donc, si on compte aujourd'hui le nombre de chrétiens éparpillés dans tout le monde entier, je ne sais pas combien de nationalités, Et nous devons quelque chose à Paul parce qu'il dit, celui qui a appelé Paul, Pierre, l'apôtre des circoncis, il a fait de moi l'apôtre des nations. Donc, une des raisons pourquoi j'utilise, comme je vous ai dit la semaine dernière, le terme notre apôtre, parce que l'évangile a pénétré à travers cet homme. Enfin, tout ça, j'insiste parce que combien il est important pour nous de intégrer dans nos études personnelles les récits de Paul et de ses lettres à considérer. Parce que dès que nous oublions d'aborder cette question, forcément nous perdons le sens du christianisme. Et pourquoi autant de sectes, même de grandes religions chrétiennes qui existent, pourquoi autant de déviations théologiques, autant de conceptions extra-bibliques existent? Parce que justement on s'écarte de cette écriture choisie par Dieu à travers Paul. Tu peux lire Actes 22, 15 et 21 pour un peu suivre qui a présenté Christ aux nations. Eh bien, c'est encore une fois comme tu as dit, c'est Paul. Et il le dit dans Actes 22, lors d'un de ses procès. Bien sûr, vous comprenez bien, quand on parle de procès, c'est pas parce qu'il était malfaiteur hein, qu'il a été mis en procès, mais parce qu'il a annoncé l'évangile. Actes 22, 15 et 21, s'il te plaît.
Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. 21. Alors il me dit, va, je t'enverrai au loin vers les nations.
Voilà, va, je t'enverrai au loin vers les nations. C'est Dieu qui s'adresse. Jésus-Christ qui s'adresse à Paul en l'élisant, en le rendant capable comme prédicateur. Qu'est-ce qu'un prédicateur, à votre avis?
C'est celui qui apporte la bonne nouvelle.
Oui, celui qui apporte la bonne nouvelle. Comment vous définirez un prédicateur? Parce qu'il dit, hein, je suis, il dit comment?
Un homme rempli de l'esprit.
Oui.
Qui porte la parole de Dieu, qui enseigne les frères et sœurs qu'ils ont besoin. C'est le prédicateur.
C'est ça, qui apporte la parole de Dieu. Là, voilà, c'est ça, qui a eu un message, une proclamation de la parole de Dieu. Et dans la langue d'origine, il parle d'un héros, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans cette époque, qui diffusait un grand message important. Surtout un héros qui diffusait des messages officiels. C'est le terme qu'ils utilisaient pour prédicateur. Donc il y a un message important officiel qu'on doit publier, rendre publiquement, au nom d'un mandant qui est placé en autorité et qui lui confère ce message. Souvent un roi ou quelqu'un qui est dignitaire, haut placé, qui laisse proclamer un message public et officiel à un peuple. Donc c'est ça le terme prédicateur. Qu'est-ce qu'un apôtre?
C'est celui qui suit Jésus.
Exactement. Ceux qui suivent Jésus sont appelés apôtres. Mm-hmm. Et Nielsen dit un envoyé. Donc il y a toute cette notion qui sont là dans le mot derrière l'apôtre. Le mot littéralement apostolos, c'est lui qui est envoyé comme un messager. Donc ça se rejoint un peu quand il parle de prédicateur et apôtre. Et dans le Nouveau Testament, comme a dit Madeleine, c'est notamment pour ceux qui sont comme un ambassadeur. On a tous connu plus ou moins les démarches dans les ambassades. C'est que c'est des gens qui représentent un pays, mais dans un lieu étranger.
Donc mais aujourd'hui, des apôtres existent encore, mais seulement les deux apôtres de Jésus, plus Paul, 13 personnes. Parce qu'aujourd'hui, surtout aux États-Unis, il y a pas mal de gens qui se disent « Oh, je suis apôtre, blablabla ».
Oui, bien sûr, oui, ça existe.
Mais c'est bizarre.
J'étais dans un groupe d'église en région parisienne, et puis, en plein milieu, on était obligé de quitter parce qu'il y avait tellement de bruit. Et je demandais si je pouvais partir. Et puis il y a la femme du pasteur qui venait. Et puis il disait non, restez. On a quelque chose à faire. Et puis on a trouvé une excuse pour partir. Et puis elle disait bon, revenez au moins la semaine prochaine parce qu'il y a l'apôtre Matthieu qui va venir. Et puis j'ai dit ah bon, je pensais qu'il était parti il y a 2000 ans déjà. Donc la question de Soyane, c'est ça en fait. Est-ce que les apôtres existent aujourd'hui?
Les autoproclamés, oui.
Rav dit les autoproclamés.
Ça dépend de l'apôtre de qui? Apôtre de Jésus? apôtres de...
Je pense que sa question c'est est-ce que les apôtres dans le sens...
Envoyés de Jésus.
Voilà. Oui. C'est ça, envoyés de Jésus qui existait, ça ta question, je crois. Oui. Ouais.
Je pense qu'apôtre, ça veut dire aussi choisi. Jésus a choisi des apôtres.
On peut dire des pasteurs, des missionnaires, même on ne peut pas dire apôtre grec, apôtre, et puis on ne dit pas ça.
Non, surtout pas.
Mais dans le Bible, on a 5 types de ministères. Mm-hmm. On a l'évangéliste, on a le pasteur, on a l'apôtre, on a des enseignants, et je ne me souviens plus les derniers. Donc l'apôtre, que tu veux,
ouais.
Le prophète, si on a l'évangéliste, ça veut dire qu'on peut avoir toujours l'apôtre. Il y a les gens qui sont appelés dans les services pour une apôtre. Il y a les gens qui sont appelés comme évangélistes. Il y a les gens qui sont appelés comme prophètes. Uh-huh. Donc, oui, on peut avoir. Si tous les 4 uh-huh. existent toujours, pourquoi pas l'apôtre? Parce que l'apôtre fait partie de nous.
Alors, on va lire justement quelques passages qui pourra peut-être nous éclaircir cette question. Ça tombe très bien de Soyan. Et comme j'ai dit, hein, moi j'ai prévu 1 heure, et puis si vous avez des questions, éventuellement vous avez des questions, vous êtes bien réveillé malgré un bon repas, donc je ne suis pas responsable si ça dépasse 16 heures. Non, enfin on va lire justement c'est les passages que, après je donnerai ce que je pense là-dessus sur cette question, qu'on peut toujours discuter après la réunion aussi. Hein.
Ouais.
N'est-ce pas Marc? Alors, généralement, ce terme s'applique aux 12 que Jésus a choisis. Dans la Bible, en tout cas, on parle des apôtres. Donc, dans Luc 13, c'est la tour de Marie, peut-être. Ouais. Si tu peux lire Luc 6, 13, et puis Marc, si tu peux lire derrière 1 Corinthiens 15, 7 à 9, s'il te plaît.
Quand le jour, Dieu là, il appellera ses disciples. Il a choisi 12. Auquel donne le nom d'apôtre.
Parfait. 1 Corinthiens 15, 7 à 9.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terre. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu.
Voilà une des raisons pourquoi je crois personnellement que... On ne peut pas se donner le nom apôtre, parce que si déjà Paul prend cette attitude, je suis le moindre des apôtres,
alors que,
statistiquement, je pense qu'il a contribué pratiquement 70% de la condensation de la théologie chrétienne. C'est lui qui dit, je suis le moindre des apôtres, c'est-à-dire le Seigneur l'a appelé après son ascension, et il l'a choisi, et le Seigneur lui-même l'a choisi, et on l'a lu tout à l'heure. Donc, l'apostolat, je crois que ce sont un peu comme des gens qui font un bâtiment. Enfin, je pense que Paul, il le compare aussi. Et il y a un architecte à la base. N'importe quel tour ou bâtiment qui doit être construit, il y a un architecte qui conçoit, qui travaille sur la conception même de la chose. Et une fois que c'est lancé, après, il y a des maçons, des ingénieurs, des techniciens qui interviennent pour bâtir un peu le plus haut point, enfin, jusqu'à ce que le plan soit réalisé. Donc je crois que c'est un peu dans cette anecdote que les apôtres, et puis les prophètes aussi, ça rejoint, ce sont ceux qui proclament et qui ont fondé les Écritures avec l'aide de l'Esprit-Saint. Donc inspirés de l'Esprit, ils ont parlé, ils ont écrit. Et une fois que ce fondement est fait, et c'est là que l'Église se bâtit à partir de ce fondement. Donc l'apostolat, selon ma conviction biblique, ça a été accordé à ces hommes particulièrement. À ces 12 hommes, dont d'ailleurs dans Apocalypse on verra toujours ces 12 qui représentent les tribus d'Israël, les 12 qui représentent l'Église, enfin il y a beaucoup de chiffres comme ça dans la Bible. Et je crois personnellement qu'il n'y a pas plus que ces 12 hommes qui ont eu ce titre bien spécifique pour une tâche et une fonction spécifique dans l'histoire des Écritures que Dieu a voulu donner. Donc c'est un peu pourquoi je m'attache plutôt à cette conviction. Je sens que Junias a des questions.
Oui, mais c'est juste une question. Ephésiens 4, 11. Et elle a donné les uns comme l'apôtre, les autres comme les prophètes,
les autres comme les évangélistes, les autres comme les pasteurs et les docteurs. C'est Paul lui-même qui aussi est écrit, uh-huh. qui parle ici.
Bien sûr, hein.
Il a parlé de tous les saints ici. Si les trois, donc, est-ce que les évangélistes, elles existent toujours ou pas? Uh-huh. Si les trois existent, pourquoi pas les deux aussi? Les prophètes et les apôtres.
Alors, je crois que quand il écrit aux Éphésiens, Paul, enfin, souvent, à qui il pense? Toute la question est là maintenant. Quand Paul, il a écrit à ses cinq fonctions pour fonder et bâtir l'œuvre de l'Église, que Dieu a planifiée hein, dans sa souveraineté. Quand Paul rédige ses fonctions, je crois que quelque part, il inclut et il s'inclut en tant qu'apôtre. Et notamment, il pense probablement à Pierre, à Jean, d'ailleurs, qui dit même dans un passage qu'ils sont considérés comme la colonne de l'Église, qui lui ont donné la main d'association quand il parle aux Galates, quand il écrit aux Galates. Donc, c'est un peu, je reviens à cette image d'une tour qui doit se construire. On n'aura pas besoin d'architecte une fois que la chose est complètement élevée, finie, parce que la conception de la tour, c'est fait. L'architecte, il a fait son travail. Et après, bien sûr, il y a beaucoup de chefs de projet, ingénieurs, des chrétiens de maçonnerie, enfin, toutes sortes d'art qui se fait dans l'image. Et c'est dans ce concept, enfin, dans cette illustration, je pense qu'on doit voir ce passage de Éphésiens. Et justement, là, je vous donne Éphésiens 3, 1 à 11. Peut-être qu'on peut lire au moins les premiers versets, si le temps manque un peu. C'est toi, je pense, vas-y, tu peux, ça tombe bien. J'ai mis 3, 1 à 11, mais vas-y, commence à lire et peut-être on va arrêter à partir de quelques versets.
Éphésiens 3, verset 1 à 11. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Dieu, pour vous, rien. Si du moins vous avez appris comment il fait part de la grâce de Dieu et qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation qu'il y a eu connaissance des mystères sur lesquels je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère du Dieu.
Oui, donc je pense qu'on peut, s'arrêter là et puis je te demanderai de lire un petit peu plus haut. Alors, verset 20 du chapitre 2. Juste avant.
Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant le pierre angulaire.
Voilà, je pense que ça répond à ta question aussi. Justement, dans toute la lettre d'Éphésiens, il faut voir l'Église comme le thème qui revient très souvent. Comme dans 3, verset 10, on voit l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, il parle vraiment du plan de l'Église dans Éphésiens. Et dans tous ces versets que tu viens de lire, il y a une révélation bien spécifique et spéciale donnée seulement et uniquement à Paul et aux apôtres qu'ils ont écrit. Et notamment pour Paul, ici, dans les premiers versets, on voit que ce mandat spirituel lui a été accordé. Et il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Il dit peu de mots alors qu'il y a autant de lettres. C'est ça, en fait, la révélation qu'il reçoit. Et il ajoute, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Donc, ailleurs, il dira dans Galates que personne ne pose un autre fondement que nous avons posé. C'est-à-dire, en d'autres termes, je comprends ici que l'autorité apostolique donnée pour l'Église est réduite à ce temps de l'Église primitive où les apôtres, notamment Paul, on peut dire entre autres Paul, notamment Paul parce que c'est lui qui annonce aux nations, comme il le dit, j'annonce ces mystères aux nations, aux païens. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ, pour vous, païens, apôtres des païens. Donc c'est pour ça que ma conviction biblique, je crois que ce titre, apôtre et prophète, est très spécifique à cette période particulière de l'histoire de l'Église. Et l'une des raisons pourquoi on peut se dévier de la Bible et malheureusement des religions dont je ne vais pas nommer de l'écriture, et qui ont donné tellement de conceptions par rapport au salut, que hier j'étais en train de discuter avec cette sœur catholique qui fait qu'aujourd'hui les gens ne savent plus comment être sauvés, même si on est dans une religion. Donc je crois que si on se dévie de cette écriture de l'apôtre Paul et des apôtres, j'ajoute toujours les apôtres, je crois que très facilement on peut aller loin. Et aujourd'hui, les religions qui revendiquent un peu cette autorité que nous aussi on parle de la part de Dieu, je pense qu'ils partent de ce principe que nous serons aussi des apôtres, ou nous sommes aussi, ils osent dire que nous sommes aussi apôtres, et forcément ils se dévient de ce fondement. Et l'une des raisons dans tous les pays qu'on visite, enfin moi j'ai pas fait le tour du monde, pourquoi on a aussi peu d'œuvres basées sur la Bible, c'est parce qu'ils n'ont pas eu cette conviction nette, claire, de savoir prêcher la Bible entièrement, tout ce qui est écrit. Parce qu'on s'est donné des noms, parce qu'on s'est donné des titres, comme Rav a dit, une autoproclamation.
Alors, apostolique. On n'a plus besoin de nouvelles conceptions bibliques, alors on n'a plus besoin de nouveaux apôtres.
Exactement.
Par contre, on a toujours besoin des évangélistes jusqu'au retour de Jésus.
Exactement.
Mais de nouveaux apôtres, c'est une fausse doctrine.
C'est une fausse doctrine et inutile parce que justement, les évangélistes, pourquoi? Parce qu'il faut transporter le message maintenant. J'ai parlé avec Grâce, il me semble, il y a certaines langues dans lesquelles l'évangile n'est pas encore traduite. On discutait. Donc, l'évangéliste et ceux qui apportent l'évangile, ou même quand nous évangélisons, enfin, on n'est pas évangéliste, mais c'est-à-dire, il y a de ceux qui sont appelés spécifiquement pour apporter l'évangile à des contrées, à des pays encore aujourd'hui où l'évangile n'est pas atteinte. Donc, dans ce sens, les évangélistes, oui, Dieu appelle.
Le problème aujourd'hui, ces gens de soi-disant apôtres ont très grande influence. Par exemple, Cindy Jacobs, Heidi Baker, Benny Hinn, etc. Ils ont une grande influence. Beaucoup de chrétiens en Asie, aux Américains, ils suivent ce genre de personnes.
Alors, le temps avance, vas-y.
Juste pour un petit commentaire.
Tout ça, je rentre dans le temps, comment on dit, temps de prolongation, c'est ça?
moi, je reviens à la définition que Ebi avait donnée, c'est que un apôtre, c'est un envoyé. Et ils sont envoyés par Christ. Donc c'est Christ qui a choisi, c'est ça la définition. Il y a déjà un passage qui dit qu'il a choisi 12 apôtres. Et même dans Actes 1, chapitre 2, chapitre 1, verset 2, voici ce qui est écrit: jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, Jésus, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc c'est vraiment des gens qu'il a choisis personnellement en Jésus quand il était vivant. Et Paul, il n'y avait que deux apôtres qui n'ont pas été choisis par Jésus. C'est Paul et Matthias. Matthias a été nommé pour remplacer la fonction de Judas. Mais Paul est un 13e apôtre, entre guillemets. C'est pour ça qu'il s'est dit qu'il est le plus petit des apôtres. Et même dans Apocalypse, dans Apocalypse 21, il dit qu'il y aura 12 apôtres. Donc il n'y a pas plus que 12. C'est toujours un sujet de débat quelquefois, parce que est-ce qu'il y a vraiment 12 apôtres ou 13? C'est pareil, est-ce qu'il y a vraiment 12 enfants d'Israël ou 13? Parce que c'est souvent aussi dans les nombres d'enfants d'Israël, on compte pas les Lévites, et on compte Éphraïm et Manassé, les fils de Joseph. Donc c'est à peu près pareil, en fait, si on parle d'analogie entre enfants d'Israël et enfants de Jacob et les apôtres. Donc pour moi, apôtres... Si ça répond bien à la définition, il n'y a que 12.
C'est ça, oui. Non, si on fait le tour de la Bible, comme dit Nilsson, moi je conçois aussi de la même manière. Et puis c'est la raison pourquoi, enfin, j'ai pas dit à cette dame qu'avant Matthieu, quand elle parlait de l'apôtre Matthieu, mais bon, elle faisait allusion à un vrai Matthieu qui était contemporain. Hein. Enfin, il me semble qu'elle m'avait même passé un flyer. Bon, j'ai compris leur confession. Enfin, voilà, mais pour moi, c'est pas biblique. Donc il nous reste une demi-heure, on va avancer et certainement, enfin si vous avez des questions, moi je suis là et ici. Hein, donc, on peut rester, enfin vous pouvez rester discuter, on peut parler sur ça. Alors que pour ce qui est de l'apôtre Paul, c'est que Paul, il a été appelé, choisi de Dieu, il le dit, mais aussi il y avait d'autres hommes qui le confirmaient en fait. Et quel autre homme qui confirme la vocation de Paul envers les païens? Ananias, dans Acte 9, 15, on le lit. Le propre témoignage de Paul, comme on vient de lire dans Acte 22, et plusieurs années plus tard dans Acte 26 aussi, devant Festus, le gouverneur Festus, le roi Agrippa et son épouse Bérénice. Paul, il déclare qu'il a été vraiment appelé envers les nations. Dans les degrés de la forteresse de romaine, il en parle aussi dans la ville de Jérusalem, Acte 22. Donc il y a tous ces témoins. Et plus tard, on verra que Pierre le reconnaîtra. Dans Galates, ils le reconnaissent, hein, ceux qui ont été considérés comme les colonnes de l'Église, Jean, Jacques et Pierre. Ou, d'ailleurs, ceux qui étaient avec Jésus, au moins Jean et Pierre. Jacques, qui était avec Jésus, était martyr très tôt. Mais c'était l'autre Jacques, c'est-à-dire le frère de Jésus, qui était des piliers, des colonnes, qui l'ont confirmé aussi, l'apostolat de Paul. Donc, tous ont attesté aussi. Et dans tout ça, l'attitude de Paul, qui est adoptée en recevant son ministère, Raph, peut-être tu peux lire dans Actes 20, 24, qui est dans les notes. Voilà, donc l'attitude de Paul, c'est très exemplaire. Il s'attache plus à sa propre vie. C'est-à-dire, je ne donne pas beaucoup d'importance finalement, malgré cet appel, malgré cet apostolat. Donc ça, c'est une attitude qu'on peut apprendre. Et puis, bon, il y a plusieurs passages. Le temps nous manque, hein, je vous laisse lire chez vous éventuellement. C'est Colossiens 1, 24, 29. Et puis, comment Paul renonce à soi-même dans ce ministère, dans cet apostolat où il a été appelé. Dans 1 Corinthiens 9, 16, 18, on lit aussi encore une fois son attitude, qu'il ne tire jamais un sujet de gloire, qu'il soit prédicateur de l'évangile, appelé apôtre de l'évangile. Et au contraire, il souffre et il donne gratuitement. Parfois, il travaille la nuit et il prêche le jour. Il y a toutes sortes de agenda bien bousculés pour Paul qu'il mène dans tous ses grands voyages. Voilà. Exactement. Donc, l'application pour moi, c'est pour nous l'exemple de à travers cette personne. D'ailleurs, qui dit « Imitez-moi comme j'imite Christ », il le dit et c'est même inspiré, même. Il le dit. Et au moment où il y a des hommes, je ne vais pas nommer, hein, on en a un peu évoqué, qui sont avides d'argent, de ceux qui cherchent beaucoup de notoriété, qui dépouillent les foules parfois injustement et qui certainement prêchent un autre évangile à un moment donné, parce que quand on arrive à ce stade de déviation contre les saines doctrines de la Bible, je pense qu'il faut considérer Paul et revenir à cette source de cette attitude d'un homme inspiré par Dieu en fait. Donc dans tout le travail de l'annonce de l'évangile, à tous et à tout moment, on doit se laisser constamment attirer dans l'imitation de l'apôtre qui lui-même imite Jésus-Christ. Et il le dit deux fois, il me semble. Là, j'ai mis 1 Corinthiens 11. 1. Et pour avancer rapidement, le Seigneur appelle aussi donc Paul à la route de Damas. Donc cette vocation vient bien de l'Esprit de Dieu. Il confirme par les hommes, comme on a dit déjà, Ananias. Barnabas le confirme parce que c'est lui qui va le chercher. Quand il sera engagé dans l'église d'Antioche pour servir, c'est Barnabas qui l'amène. Pierre, il le déclare bien, il dit qu'il y a beaucoup de choses que Paul écrit est difficile à comprendre, mais il y a des gens qui essayent de tordre les sens. Donc Pierre reconnaît même que les écritures de l'apôtre Paul est selon Dieu. Donc lui-même, il atteste. Pierre, il le dit. Jacques aussi, dans Actes 15, 13, 22, il approuve le ministère de Barnabas et de Paul après leur premier voyage missionnaire. Et puis, on parle de Jean dans Galates 2, 9. Paul, il va parler de Jean qui lui tend aussi la main d'association. Donc tous ces passages, bon, je vous laisse lire chez vous, hein, l'église d'Antioche, etc. Donc tous ces passages donc, attestent bien par la volonté de Dieu le Père que Paul a été spécifiquement appelé comme apôtre pour bâtir l'œuvre de l'église en tant que et pasteur, et docteur, et apôtre, et prophète aussi, puisque toute cette écriture, il le donne comme, comme une parole proclamée, comme un prophète, et puis un planteur d'église. En revanche, avec ce mot, j'ai pas de problème. Un planteur d'église, pourquoi? C'est un peu de ce que quelqu'un a dit, évangéliste. C'est quelqu'un qui amène l'évangile pour implanter une nouvelle œuvre là où il n'y a pas d'œuvre, dans une commune. Par exemple, ici, pour commencer ici cette œuvre, il y avait des gens qui en travaillaient. Ce bâtiment, enfin physique, c'est certes, mais surtout les hommes et les femmes qui constituent cette église, c'est ça l'église. Et il y a quelqu'un qui a initié ce projet avec l'aide de Dieu. Et moi, je suis plus à l'aise avec ce terme « implanteur » que peut-être certains peuvent confondre avec prophète, apôtre.
C'est ça.
La terminologie.
C'est que tu as parlé, tu as dit envoyer, donc tu as vraiment fixé la définition d'apôtre. Mais pour moi, il pense à apôtre, c'est quelqu'un qui plante.
Implante. Oui, c'est dans ce sens, oui. C'est-à-dire, moi, ça ne me dérangerait pas un jour si je rencontre quelqu'un qui a vraiment cette attitude de Paul, comme n'importe quel missionnaire que je, enfin, qu'on entend, qu'on connaît, hein, qu'on remercie le Seigneur. Parce qu'ils sont allés dans des endroits aussi bien à la France que comme d'autres continents, d'autres pays, où il n'y avait pas une œuvre de naissance, mais qui ont implanté une œuvre. C'est-à-dire une implantée, ils ont évangélisé, ils ont élaboré, ils ont semé l'évangile.
Ça, on appelle des missionnaires, n'est-ce pas?
Souvent, dans notre contexte, on appelle missionnaire ou évangéliste. Enfin, si on veut prendre vraiment le terme biblique, évangéliste. Bâtisseur. Peut-être, pourquoi pas, bâtisseur d'œuvre. Enfin, c'est quelqu'un qui bâtit une œuvre. Pour moi, mon souci, pourquoi je préfère pas utiliser la terminologie apôtre, même si il utilise que strictement dans ce terme de implanter une église. Imagine, hein, tu vas dans un pays, je sais pas moi, Venezuela ou enfin, je dis n'importe quoi, hein, au Bolivie, quelqu'un qui se dit apôtre, mais qui fait un travail d'un missionnaire, comme on connaît, un travail d'un implanteur d'église, comme on connaît. Ici, par exemple, je ne sais pas, c'est Olivier, il me semble, qui a travaillé avec d'autres frères.
Il me semble, Trévor et Olivier.
Trévor et Olivier Bourrel, qui ont commencé un peu, qui ont initié un peu cette tâche. Et après, il y a Greg qui a rejoint en tant que missionnaire, enfin, missionnaire-pasteur, parce qu'il faisait aussi en même temps le travail pastoral. Mais je ne me rappelle jamais avoir entendu Olivier qui se disait, en tant qu'apôtre, j'étais parti à Lille pour bâtir l'œuvre, ou enfin là je parle d'Olivier Bourrel parce que bon on est à Lille, hein, je pourrais parler de l'église de Saint-Denis par exemple où je connais l'implanteur d'église.
Il y avait aussi Didier Silberstein.
C'est ça, il y a enfin je connais certains nombres d'implanteurs d'église à Luxembourg, il y a un frère aussi, enfin j'ai jamais entendu c'est jamais apôtre tel ou tel.
Mais, là parce que ce que tu parlais tout à l'heure, On pense que tous les missionnaires sont apôtres et sont évangélistes, mais sont pas, tous les missionnaires ne sont pas évangélistes.
Pas forcément.
Oui. Donc, tous les planteurs de l'église ne sont pas aussi évangélistes. Pour moi, je pense que quand ils voient les dons de l'esprit, les dons qui étaient donnés pour les apôtres, c'est pour planter les églises. Mm-hmm. Après, c'est le pasteur qui fait diriger l'église pour faire grandir. Mais c'est l'évangéliste qui amène les gens dans les églises.
Mmh. Oui, parce que c'est un appel spécifique. Par exemple, on parle de l'évangéliste, enfin le plus connu dont on parle souvent, c'est comment il s'appelle, Billy Graham. Voilà, Billy Graham, par exemple. Enfin, bon, après ça c'est un autre débat. Enfin, parce que
lui, il a jamais fait l'église.
Ça c'est, enfin là on parle spécifiquement d'une personne. Enfin, je préfère pas aborder ici. Je crois qu'encore là, il faut faire très attention parce que personnellement, je préfère quelqu'un qui soit attaché dans une église déjà fondée ou une église qui est au point d'être fondée et partir en tant qu'évangéliste, encore une fois envoyé par cette église. Parce que En région parisienne, on fait souvent face à ces problèmes, en fait. J'étais dans un groupe qui s'est créé comme une église, comme tu dis, autoproclamation aussi, pastorale. Et je vous assure, ça se fonctionnait exactement comme dans une église, et les locaux ressemblaient plus ou moins comme ça. Et une question que j'ai posée, et même le pasteur ne savait pas répondre, je disais, quelle est la première église locale fondée dans la Bible? Et ça fonctionnait depuis au moins 3-4 ans. Hein. Donc, enfin, c'est-à-dire, on part du principe qu'il y a des gens qui se disent église, qui fondent des choses, mais qui n'ont pas vraiment, enfin, ce que les apôtres ont écrit, qui n'ont pas cette connaissance des Écritures.
La première église est à Antioche.
La première église, c'est à Jérusalem. Ouais. C'est, enfin, ce que on lit dans l'église primitive.
L'église primitive.
Donc, Jérusalem et Antioche après. Enfin, il y a d'autres églises comme ça qui se sont créées, des églises locales. Pourquoi? Enfin, parce que justement, et souvent dans ce genre de milieu des groupes, des corpuscules, je ne sais pas si ça existe, enfin dans ce genre de groupe, c'est là où on entend souvent ce genre de terminologie pour se donner un titre finalement qui ne correspond pas du tout à l'attitude et l'œuvre derrière. Maintenant, si quelqu'un fait vraiment un travail d'implanteur puis missionnaire et qui fonde une église et que des âmes viennent au Seigneur et que une œuvre est fondée. Une église s'est fondée. S'il se dit apôtre,
malgré tout,
j'aurais du mal toujours.
C'est volonté, une conception.
En fait, le problème, c'est pas, mais qu'est-ce que le problème? Pour leur donner le titre, c'est le problème où vous faites une. Tu penses qu'ils ne méritent pas ce titre? C'est ça que tu penses?
Parce que moi, je crois personnellement que ce titre a été donné pour les 12. Voilà. Ça, c'est ma conviction biblique, en fait.
C'est dans la Bible.
C'est, en fait, tous ces passages, pourquoi on lit ensemble, justement, c'est parce que Jésus, il a nommé apôtre. Et Jésus, il a jamais nommé Madeleine apôtre, Marie, pardon, apôtre. Ou Jésus, il a jamais nommé Sosipater, par exemple, apôtre. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans l'église primitive, qui travaillaient même comme des pasteurs, ils étaient pasteurs. Tichic, par exemple. Mais je vois pas un endroit où Tichic a été appelé pasteur,
non.
Ou Philippe, ou Étienne, je les entends comme diacres, parce que ils sont choisis, élus comme diacres dans une église, et ils ont même évangélisé d'ailleurs. Et d'ailleurs, Philippe est considéré comme un évangéliste qui apporte à Samarie l'évangile qui n'a pas été encore atteint dans ses contrées, puis après ça s'étend de plus en plus. Et pourquoi, si déjà les hommes de l'église primitive, ils ne se donnent pas le titre parce qu'ils sont diacres, parce qu'ils sont évangélistes, le titre d'apôtre, et qu'on peut se permettre aujourd'hui dans l'ère contemporaine où on n'a pas plus besoin des apôtres, parce que la révélation est donnée, le mystère de Jésus-Christ a été annoncé, écrite, attesté, canonisé.
Je vois le problème de Julien, c'est de dire que pourquoi tous les autres existent encore maintenant et pourquoi les apôtres n'existent plus?
Parce que
c'est ça. Mais le oui, mais si j'ai bien compris le texte ici, c'est qu'il a dit, il a donné. En français, c'est en passé, mais peut-être dans les autres versions, c'est pareil. Il a donné, c'est-à-dire que Jésus a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Donc, à l'époque où cette parole a été dite, ces apôtres étaient là. Donc, c'est véridique au moment où il a dit que Dieu a vraiment donné des apôtres, qu'ils étaient présents encore, ils sont encore en vie, des prophètes, des évangélistes, pour le perfectionnement des saints, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité. Donc, c'est un travail qui continue et qui reste toujours à faire dans le monde entier jusqu'à ce que Jésus revienne. Oui. Donc lui, il a donné une fois les apôtres. Par contre, les autres,
ça se perpétue jusqu'à ce que l'Église.
Parce que moi aussi, j'ai remarqué comme tu avais dit, dans la Bible entière, il n'y a pas d'autres apôtres qui étaient cités à part les 12 qui étaient dits par Jésus.
C'est ce que j'allais dire aussi. Puisqu'on est sur Timothée, je me rappelle pas avoir lu où Timothée était considéré comme un apôtre. Or, Timothée est considéré comme enseignant, organisateur d'église ou administrateur d'église, c'est-à-dire pasteur, si on peut prendre ce terme. C'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs Tite ou Timothée des épîtres pastorales, données à ces hommes qui sont engagés pour bâtir l'œuvre sur le fondement dont la pierre angulaire est Christ, dont les architectes sont les apôtres, et les enseignants et les pasteurs sont des bâtisseurs dans le fondement.
Et du coup, si on s'en tient au sens propre du mot apôtre, on ne pense qu'aux 12. Après, il peut y avoir des gens qui font des travaux d'apôtre, pourquoi pas, des travaux d'apôtre, comme dans le sens où fondation d'église, mais le titre, c'est vraiment le titre qui pose problème, parce que c'est vraiment...
Le titre qui est gênant, parce que...
Ça ne répond pas à la définition, en fait.
Ça ne répond pas à la définition déjà, et puis il y a malheureusement des abus. Enfin, moi, moins, peu que j'ai entendu, je pense que chaque fois que j'ai entendu le mot apôtre et que tu creusais un peu sur Google, sur la personne en question, tu vois très rapidement que ce n'est pas du tout consistant. Ce n'est pas des écritures que ça émane, finalement. Bon, là, tu as cité un nom et enfin, je ne préconise même pas ces personnes.
Moi, je dis même que c'est un peu comme le pape. Le pape, c'est un titre qui n'est pas... je veux dire, on ne peut pas dire d'après la Bible, déjustifier quelqu'un, un homme, qui peut se nommer et avoir le titre de pape. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est pape. Il n'y a pas un homme qui peut être...
Il est le seul père, oui.
Personne ne se fera appeler maître, ni...
Mais après, bon...
Donc l'application, enfin, je vais avancer. Je ne pensais pas qu'on allait faire 45 minutes rien que la première partie, c'est bien.
C'est intéressant.
Mais en tout cas, il y a une temps de prolongation de 15 minutes. Non, est-ce qu'il y a des gens qui ont des contraintes si éventuellement on dépasse 16 heures? Vous avez des contraintes?
Non, ça va aller.
Madeleine?
Pas 5 heures.
Pas 5 heures, bien sûr. Non, c'est juste pour m'assurer combien de temps je dois rester et si je dois aller très vite ou si je dois bousculer.
10 minutes.
Ah, temps de prolongation 10 minutes, hein, ça c'est Clémence. Madeleine, ça va? Si je dépasse de 15 minutes?
Oui, 15
c'est
minutes,
bon,
ça
super, ouais, 16h15, donc ça veut dire que j'ai 25 minutes. Donc, l'application qu'on tire de tout ça, bien sûr, Junias, on peut discuter jusqu'à 18h ou 19h avec moi, sans problème. Je suis là, j'ai pas de déplacement. Et puis, tu habites pas loin, il me semble, en plus. Ah oui, demande à Marc, je peux rester jusqu'à 22h. Alors, l'application. Je sais qu'on aura une discussion avec Marc aussi tout à l'heure. Là, il est en forme. L'application, toute sainte vocation, en tout cas, qu'on soit appelé pasteur ou évangéliste ou enseignant, peu importe, enfin, qui est aujourd'hui valable, hein, qui reste encore valable comme appel, vocation, quelle que soit l'œuvre en vue, en implantation ou bien en cours de travail ou déjà implanté, quelle que soit notre fonction, tâche à nous, même en tant que frère, en tant que sœur, en tant que chrétien, diacre, diaconesse, tout ça se confirme lorsque les hommes cherchent Dieu. Et quand une église se bâtit avec cet appel sérieux et que les hommes sont appelés pour vraiment prêcher la parole, tout ça, Dieu confirmera même ses vocations, comme il a confirmé ses 12 apôtres. Il confirmera. Donc, chacun, nous sommes appelés à nous concentrer au service que Dieu nous appelle à faire, à accomplir. Si le Seigneur vous donne, vous encourage par la finance, ça c'est une œuvre. Ça fait partie de l'œuvre et c'est comme ça que les œuvres se sont bâties aussi. Donc, Dieu a un plan spécifique, je crois. Et d'ailleurs, ce dont on lit dans Éphésiens 2, c'est qu'il a préparé. Il nous a sauvés par grâce, mais pour de bonnes œuvres, qu'il a préparées d'avance. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, pour que nous pratiquions des bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance. Donc prions pour comprendre et discerner donc ces choses qui sont vraiment meilleures pour nous, quel que soit notre champ d'activité, en tant que fonctionnaire, en tant que travailleur dans des entreprises privées, ou en tant qu'évangéliste, ou diacre, ou pasteur, quoi que soit notre appel à nous chacun. En tant que mère au foyer, pour moi, franchement, je pense que ça fait partie de l'implantation de l'église, parce que Timothée a été engendré un peu dans la foi avant même que Paul fasse le travail par sa mère.
Sa grand-mère aussi.
Par sa grand-mère. Donc la Bible englobe toute personne responsable pour bâtir l'œuvre selon le service que le Seigneur l'appelle, il ou elle. Prions donc pour comprendre nos vocations spécifiques. Donc, comme on a transité un peu avec cette notion de grâce que Paul il en parle, et c'est dans le verset 9 qu'on va s'appuyer maintenant pour discuter un tout petit peu, 20 minutes, mais s'il y a des questions comme tout à l'heure, je ne suis pas responsable. Parce que là, on touche à un sujet qui peut éventuellement susciter aussi des questions. Moi, je crois que c'est très intéressant. Hein. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Alors, pourquoi j'insiste sur ce verset pour cette étude? Parce qu'en ce temps et en ces siècles où beaucoup de choses sont dites sur la grâce de Dieu, moi, j'apprécie beaucoup les mots d'ordre, comme dans votre église. J'ai lu quelque part, je ne sais pas si dans un des fichiers planning, il me semble que c'est dans cette église, la Bible, toute la Bible et rien que la Bible. Je pense que c'est un peu votre leitmotiv, il me semble. J'ai lu quelque part.
C'est marqué sur.
Ah, c'est marqué. Bah, c'est là, ouais, c'est bien ici. Ouais.
Solideo, machin.
C'est ça, et puis cette phrase, je pense que j'ai lu dans votre planning ici. La Bible, toute la Bible et rien que la Bible. Donc il me semble qu'on a un mot d'ordre très important, dire qu'on veut s'attacher avec la Bible. Et même dans cette église à Lille, c'est ce que j'apprécie. Et donc dans 1 Timothée 8b, alors c'est le tour de Rav, non, c'est vas-y. 8b jusqu'à 10. 8b jusqu'à 10, ouais, c'est écrit dans les notes. Ouais.
Mais souffre avec moi pour l'évangile. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avec les dons éternels, et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile.
Merci, oui. Donc, enfin, je trouve que vraiment, c'est des paroles fascinantes.
C'est Visca.
Visca.
Visca. J'espère qu'avant le 30 septembre, tout ça, ça va s'intégrer. Tous les freinants. C'est un de mes objectifs. V-I-S-C-A.
V-I-S-K-A.
S-K-A. D'accord. Merci, Visca. Donc, il y a un grand nombre de conceptions de grâce. Aujourd'hui, enfin, on entend. Hein. Vous avez déjà entendu toutes ces notions sur la grâce, sur la doctrine même qui se tourne autour de la grâce, qui sont issus des périodes, notamment après le temps d'Église. Autant la question apôtre ou pas, tout ça, ça peut se régler d'une manière assez rapidement avec la Bible. Mais je pense que les conceptions liées à la grâce, ça devient un peu plus subtil quand même. Parce qu'il y a toutes sortes de théologies, des conceptions qui sont érigées parfois, après le temps des apôtres. Des positions parfois opposées l'une de l'autre, mais qui sont pas forcément contre la Bible, parfois proches de la Bible, mais ce qui est subtil, c'est que ça peut évoquer, donner des notions en plus de la Bible. Je vous donne des exemples, pourquoi je parle de cette... On parle de la grâce prévenante, par exemple. On parle de la grâce souveraine. On parle de la grâce spéciale. On parle de la grâce suffisante. Bien sûr, toutes ces notions... peuvent correspondre à la Bible, mais là où on doit faire très attention, c'est que subtilement il y a des notions qui s'ajoutent parfois en utilisant des terminologies supplémentaires. Par contre, la grâce suffisante, par exemple, effectivement, ma grâce te suffit. C'est très lié à l'Écriture, donc moi ça me gêne pas de parler de la grâce suffisante parce que Paul il dit quand je suis faible, je suis fort. La grâce de Dieu accomplit dans la puissance. Donc c'est pour ça qu'il me paraît un peu utile d'étudier, qu'on puisse réfléchir sur toute l'autorité de donnée à Paul par Dieu et avoir la juste compréhension de la grâce de Dieu selon la prédication de Paul. Et l'idée, enfin, ce que j'aimerais dans ces deux pages que j'écris, puis vous pouvez lire et étudier tout seul, hein, après, une fois que on s'est quitté. C'est quand on peut se mettre, et je crois qu'on doit se mettre un peu dans le mindset ou dans l'état d'esprit des chrétiens qui ont vécu contemporainement ou juste après les derniers apôtres, Jean par exemple, et dire que quand on entend ces conceptions, on doit toujours se dire qu'est-ce que les chrétiens qui ont eu la Bible tout fraîchement, qui vient de lire les Écritures, sont en train de comprendre. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on doit comprendre les notions. Même ces notions qui paraissent parfois justes. Bien sûr, il y a des débats sur ces questions. Mais tout ce qu'on essaye de faire, c'est pour avoir la juste compréhension de la grâce de Dieu. Il faut constamment se remettre dans le mindset, dans l'état d'esprit des chrétiens, de l'Église et des églises primitives, disons l'an 90 ou l'an 80, une fois que la Bible a été donnée, les Nouveaux Testaments surtout, les Écrits. Donc, associer de nouvelles terminologies risque d'ajouter telle ou telle autre conception de la grâce de Dieu. Et c'est là que l'esprit peut dévier vers des chemins bifurqués. Enfin, j'écris comme ça. Hein. Tandis que si on considère l'apôtre des païens, le prédicateur de l'Évangile, l'apôtre Paul, et comment il conçoit la grâce, eh bien, sachez qu'il y a 250 fois le mot grâce apparaît dans la Bible, dans, rien que dans le Nouveau Testament, 148 fois, quelque chose comme ça, ou 149 fois. Donc la grâce de Dieu est quelque chose qui est très insisté dans le Nouveau Testament, et les apôtres utilisent assez, et nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons, beaucoup de la grâce de Dieu qui est une mérite, enfin qui est une faveur plutôt, surtout pas une mérite, mais une faveur plutôt, que l'on ne mérite pas, si on peut définir un peu la grâce. Donc à partir des passages et d'autres, tous ces versets que je vais donner, peut-être que vous avez réfléchi sur ces questions, pourquoi ce verset il risque de contredire cette conception de la grâce. Après on peut réfléchir plus en profondeur peut-être, mais là quelques questions. Pourquoi la grâce, par qui la grâce a été manifestée? Alors, pour répondre à cette question, je vais voir dans la Bible comment cette manifestation de la grâce s'est faite. Donc, il y a certains passages, donc ce qu'on a lu dans 2 Timothée, je pense aussi la dernière fois, elle a été manifestée par l'apparition ou la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc, comment ça dissocier la grâce et Jésus-Christ? Je crois qu'on commence à prendre une première déviation. Enfin, ça, c'est une chose que je note souvent. Parce que les conceptions de la grâce ou la doctrine de la grâce, je vais aller plus loin, hein, entre nous, que la théologie de la réforme même prêche, ça peut dévier, ça peut se dévier pour la simple raison que on dissocie parfois, peut-être, pour ériger une nouvelle conception de la grâce. D'où un peu, enfin, un appel à l'attention, à la mise en garde sur ces questions. Donc, pour éviter ces 20 conceptions parfois, qui ne sont peut-être pas forcément utiles de rentrer trop, des choses qu'on ne maîtrise pas même, que les théologiens ne maîtrisent pas même d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons Paul écrit, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots. Parce que là, parfois, quand vous rentrez dans ces débats sur la grâce prévenante ou la grâce souveraine, je peux vous dire que il y a des groupes WhatsApp où j'étais, il y a eu 3-4 000 messages qui se lançaient pendant des heures et des semaines. Enfin, ça existe des YouTube qui, enfin, où il y a tellement de débats qui se lancent parce qu'il y a des oppositions virulentes et opposées, hein, l'une de l'autre. Mais pourtant, on a la même Bible. Et pourtant, c'est des évangéliques. Je dirais même pourtant des baptistes. Donc, je crois que si on reste attaché à ces versets sur la grâce de Dieu dans la parole, je crois qu'on peut éviter, parfois. En qui la grâce est donnée? La réponse dans 2 Timothée 1:9. En Jésus-Christ. À qui et pour qui cette grâce a été confiée? Dans Éphésiens 3:1-2, c'est peut-être Jenny.
Je Éphésiens
3:1-2.
À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de vous.
Tu peux relire ta version sur verset 2 ? Si, c'est bien ta version, je pense.
Si, du moins, vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous.
C'est ça, oui. Quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, ou je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Ça, c'est les différentes traductions, en fait. Donc, la grâce de Dieu a été confiée à Paul pour les païens. Donc, si on veut éviter ces débats sur la doctrine de la grâce, je crois que rien qu'en méditant sur Paul et la dispensation de la grâce de Dieu qui lui a été accordée pour annoncer aux païens, eh bien là on voit déjà un élément en plus sur l'enseignement de la Bible par rapport à la grâce de Dieu. Ça a été confié à Paul d'une manière spéciale. Donc la prédication de l'évangile, donc oui, il y a une grâce spéciale, mais dans ce contexte de l'apôtre Paul qui a reçu spécifiquement, spécialement, une grâce qui lui a été confiée, d'annoncer aux païens. Mais à partir de la même terminologie, la grâce spéciale, si on érige des enseignements différents qui conduisent à une pensée de Dieu qui fait favoritisme, là, ça devient faux. Vous voyez la subtilité dans tout ça ? Donc, je veux bien entendre parler de la grâce spéciale, ou pourquoi pas la grâce souveraine, mais est-ce que cette grâce spéciale, ça parle de la grâce dont Dieu a confié à Paul, d'une manière spéciale, si on peut le dire ainsi, pour annoncer l'évangile aux païens. Mais si on commence à faire de ces terminologies pour faire une doctrine par rapport à ce que il y a certains privilégiés qui reçoivent que d'autres ne reçoivent pas, enfin des choses comme ça, ou du moins qui connotent ce genre d'idée, là il y a une déviation, effectivement. En prenant
la grâce. On comprend la grâce comme la dernière conception, comme ça, mais. Dans ce cas, est-ce qu'il y a la quantité de grâce et limite? Est-ce que ce verset biblique...
Est-ce que la grâce de Dieu est limitée? Oui, ben justement, on en revient à toutes ces questions, justement. Dans 2.4, j'écris, donc, qu'en est-il de la grâce de Dieu pour le peuple d'Israël? Ici aussi, il est question du peuple d'Israël, bien spécifiquement. Dans Romains 11, 5, 6, tiens, tu peux lire peut-être.
Il y a un reste d'Israélites selon l'élection de la grâce.
Voilà, ça j'ai résumé, hein, juste quelques mots à partir de ces versets. Donc il est question d'une élection selon la grâce, élection de la grâce. Et là il parle de qui? De la grâce de Dieu, une élection selon la grâce, notamment pour un reste d'Israélites. Tout comme il finira dans Romains 11, tout Israël sera sauvé. Oui. Et aujourd'hui des Israélites sont sauvés. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Encore une fois, quelque chose que ni les païens ni les Israélites ne méritent. Donc là, on pénètre un peu nos pensées dans la conception, selon Paul, sur la doctrine de la grâce. Maintenant, ta question était par rapport à la grâce limitée ou illimitée.
Parce que le verset, ta grâce te suffit.
Voilà, est-ce qu'on peut faire de la... J'ai pas mis ce verset, mais est-ce qu'on peut faire de la notion, la grâce suffisante, en faire une conception de grâce limitée? Je crois que non, parce que ce passage parle simplement du fait que Paul, il a une écharde dans la chair, quelque chose qui, comme un bout de bois, hein, enfin, on parle une sorte d'écharde qui était coincée dans, enfin, l'image est là, hein, comme ça, comme un écharde qui est coincé dans la chair, et qu'on a peut-être enlevé une moitié, et puis il y a reste qui dérange vraiment dans son corps, probablement, hein, une infirmité physique ou quelque chose. Et Paul, il dit, je suis faible, j'ai cette faiblesse, mais pourtant Dieu l'a permis parce que je ne dois pas m'enorgueillir à cause de toutes ces révélations que j'ai eues. Donc c'est comme un ange de Satan. Mais la réponse de Dieu, c'est que ma grâce est suffisante pour toi. Donc là, c'est adressé spécifiquement dans un contexte pour Paul, que bien sûr, on peut dire des frères ou des sœurs qui ont des épreuves interminables dans leur corps physique, des maladies, ou bien sûr la grâce de Dieu suffisante, malgré le fait que ça persiste. Mais je ne dois pas en faire une théologie en disant que la grâce de Dieu est limitée, ça veut dire
limitée.
Infinie.
Voilà, des choses comme ça, enfin, que je, À partir de ce verset, de cette passage, on ne peut pas faire une conception doctrinale. C'est ça où je suis en train d'écrire dans tout ça. À qui la grâce a été manifestée? Peut-être que ça va répondre encore à des notions qu'on a peut-être déjà entendues ou qui peuvent éventuellement corriger nos pensées. Titre 2:11, c'est pour toi.
Titre 2:11, oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains.
Bon. Ah oui, là c'est une version bien intéressante. Vas-y, tu peux relire.
Oui, Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains.
Dieu a montré son amour qui sauve tous les êtres humains. Et je pense dans une autre version, c'est marqué la grâce de Dieu, source de salut pour les hommes, a été manifestée. C'est ça ?
Pour les hommes.
A été manifestée. Et puis c'est pour ça que enfin, j'étais parti sur l'original, enfin le grec en origine. Et si on fait mot à mot, c'est marqué a été manifestée, en effet, la grâce du Dieu sauveur pour tous les humains. Enfin, si on doit traduire mot à mot, c'est comme ça que Paul écrit. Il dit. Ça a été manifesté, quoi? Complément d'objet direct. La grâce de Dieu. En effet, pour qui? Pour tous les humains. Donc, il faut intégrer maintenant ce verset dans notre conception de la grâce de Dieu. Donc, si on parle de la grâce limitée, il faut répondre à ce que Paul dit. Ça a été quand même manifesté pour tous les humains. Mais ce n'est pas donné à tous, puisque c'est seulement ceux qui ont cru, qui ont reçu cette grâce. Ce don de Dieu. Et c'est pour ça que dans 2 Timothée, il est marqué « La grâce nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Et le « nous a été donné », c'est spécifiquement, ça parle bien des chrétiens et des croyants. Ou des élus de Dieu, ou des saints.
Mais dans la dynastie Zhou de la Corée, il n'y avait personne qui a prêché l'évangile. Malgré tout, on peut dire pour mes ancêtres, ils étaient manifestés. La grâce du Seigneur a été manifestée pour vous aussi.
Moi, je pars du principe qui pour recouper ce verset avec 1 Timothée 2, il me semble, où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ça, c'est aussi encore un grand débat. Le fameux « tous les hommes », est-ce que c'est tous les hommes sans distinction ou c'est tous les hommes sans distinction et sans exception? Tu vois, on rentre dans une nouvelle conception après. Paul il dit, la grâce de Dieu a été manifestée pour tous les humains. Paul il écrit, je prie pour tous les rois, même ceux qui me persécutent. Néron, c'est ce qu'on a dit un mercredi, Néron ou César ou Festus ou Félix, enfin tout ce qui lui ont fait du mal quand même, les juifs. Et il dit Dieu, dans ce contexte il dit Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc en quelque sorte la volonté de Dieu, les désirs du cœur de Dieu c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est la raison pourquoi il a manifesté son fils. Et c'est pour ça que je ne veux pas dissocier, j'aime pas dissocier Jésus-Christ et la grâce. Et dans le nom de Jésus même, c'est le salut, le sauveur. Donc voilà, pour quel but donc la grâce a été manifestée pour vivre. Maintenant, le verset 12 de Timothée 2 spécifiquement donne pour quel but la grâce de Dieu a été manifestée. Pour qu'on puisse vivre d'une manière sage, juste, dans la piété, que cette grâce nous enseigne à vivre dans le monde rempli de convoitise. Et ailleurs, Paul dit, puisque la loi ne nous a pas rendus capables de plaire ou d'être agréables à Dieu, la grâce de Dieu nous rend capables. Parce qu'il écrit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, mais puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. L'utilité de la grâce de Dieu, finalement, c'est dans les croyants que ça se manifeste. C'est pour ça qu'on dit que c'est donné pour les croyants. Mais la manifestation de la grâce de Dieu, ça reste pour les hommes, pour tous les hommes, tous les humains. Maintenant, est-ce que les ancêtres du Corée du Nord ou les ancêtres de Ghana ou de l'Inde ou de France de n'importe quelle nation à qui ça a été manifesté selon la Bible, oui,
même avant Jésus-Christ,
du moins avec la venue de Jésus-Christ, là ça a été manifesté clairement. Paul il écrit comme ça, hein, avec l'apparition du Seigneur Jésus-Christ la grâce s'est manifestée. C'est pour ça qu'on parle de la dispensation de la grâce qui lui a été confiée dans cette ère de l'Église. Maintenant, la grâce de Dieu, Dieu reste un Dieu de grâce. Et même dans l'Ancienne Alliance, les hommes sont sauvés par la foi. C'est-à-dire que c'est par le moyen de la foi qu'Abraham crut et fut justifié.
Mais Abraham, il a resté dans Moyen-Orient, pas en Asie.
Maintenant, la question qui surgit qui est tout à fait logique et normal. Hein. J'ai oublié le temps là. Ah, il ne reste plus que 4 minutes. Donc on peut reprendre ta question, mais rapidement, je crois que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Je pense que Paul il parle comme ça à Athènes, hein, où il était question des Grecs qui n'ont peut-être pas eu ces notions. Mais Paul il dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant la repentance. Et cet évangile a été prêché à toute créature, comme il écrira aux Colossiens.
Peut-être ça peut exister des ancêtres coréens qui sont nés avant Jésus-Christ. Est-ce au ciel maintenant?
Moi, je ne sais pas. Enfin, c'est-à-dire, je... Là, comme ça, enfin, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne sais pas. C'est une question difficile dans le sens que on ne peut pas dire oui, non. Enfin, c'est-à-dire, oui. Dieu sait, Dieu connaît son plan. Il a exécuté, il a décidé d'exécuter par Israël.
Ce qui m'inquiète, si on peut dire oui, parce que oh, peut-être ont des ancêtres, ils ont cru par la créature, il avait la foi. Mais il y a pas mal de religions qui peuvent utiliser ce genre de trucs, alors vous pouvez être sauvés.
Oui, c'est pour ça que je crois que Dieu a souverainement choisi Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa souveraineté, a choisi seulement par la foi en Jésus-Christ. Et il n'y a aucun autre nom qui n'a été donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés. Et c'est en Jésus-Christ que le salut est possible, est accessible, et que nous avons accès à la grâce de Dieu par la foi seulement. Donc, à partir de cette vérité de la parole, c'est Dieu qui choisit son peuple d'Israël, et à travers ce peuple seul qu'il suscite le Messie, et à travers le Messie seul que le salut est possible. Ça, nous devons prêcher d'une manière hardiesse, claire, convaincue, publique, comme un héros, H-E-R-A-U-T. C'est ça la prédication que nous devons garder. Maintenant, il y a des questions difficiles. La missiologie n'a pas eu toutes les réponses. Les missions n'ont pas atteint toutes les nations, parfois. Donc, il y a une responsabilité de notre part.
Mais aujourd'hui, les hommes, on n'a pas cette excuse parce qu'on a des internets partout.
Parce qu'on a
des internets.
Internet, voilà. C'est-à-dire.
Mais ce que je m'intéresse aux personnes qui ont été nées bien avant la naissance de Jésus-Christ. Bon.
Je
posais déjà la même question à Greg, mais Greg a dit aussi, je ne sais pas.
Oui, il y a des questions où on ne peut pas répondre d'une manière évidente, mais une chose qu'on peut répondre, c'est que la révélation de Dieu était très très claire dès le début, c'est-à-dire depuis que Adam est créé par Dieu. Et la révélation de Dieu était claire par rapport à l'obéissance ou à la désobéissance. La libre volonté de l'homme est claire dès le début. Dieu, à cause de son grand amour, a laissé l'homme libre de choix. Et à partir du moment où, dans la tour de Babel, où les hommes se sont érigés leur propre conception de Dieu et leur propre conception de atteindre la divinité, je crois que c'est là où il y a eu une grande rébellion ou une grande désobéissance de la part des hommes qui se sont dispersés dans toute la terre.
Mais ils pensaient avoir le temps d'aller jusqu'en haut.
Jusqu'en haut et voilà.
On a plus de classe que...
Donc, pour finir rapidement, donc, comment la bonne nouvelle est qualifiée par l'apôtre Paul, il qualifie la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, dans Acte 20, 24. Donc, en annonçant donc, la bonne nouvelle dans cette heure de l'Église où nous sommes, sans tenir compte des temps d'ignorance, nous annonçons la grâce de Dieu qui a voulu que les nations soient réunies dans l'Église et en son Fils, dont l'apparition manifeste sa grâce pour tous les humains. Qu'est-ce que la grâce procure pour les croyants? Eh bien, la justification, la sanctification, la glorification qui englobe tout le salut de tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Donc je vous laisse bien d'autres versets à méditer, de Timothée 1, 2, 9, 10, dites qu'on vient de lire, Éphésiens, Romains. Donc autant de questions. Donc c'est clair qu'on a que c'est exhaustif tout ça. On peut méditer dans nos études personnelles pour comprendre vraiment avoir cette juste notion de la grâce de Dieu dans la Bible et que l'Esprit de Dieu et sa parole seule nous guide dans sa compréhension. Je laisse François pour terminer peut-être dans la prière.
Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, merci de nous conduire encore, Seigneur, par ta parole, Seigneur. Et merci pour le salut, Seigneur, en Jésus-Christ, l'unique chemin, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur, nous te prions que tu bénisses notre retour, Seigneur, que tu bénisses notre semaine aussi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus, amen.
Amen. Amen. Merci de votre attention. Merci. Et puis merci pour le temps supplémentaire de 16 minutes.